Je voudrais commencer par une citation, pas de moi, mais de Gandhi. Gandhi qui était un avocat, un homme politique en Inde, et qui a eu l'occasion de croiser les chrétiens, le christianisme, en Inde, qui était une colonie britannique, mais aussi à Londres, où il est parti pour ses études, entre autres, et en Afrique du Sud. Et il a pu voir le christianisme de près, il a pu voir les chrétiens, et voilà ce qu'il a dit. Sans doute serais-je chrétien si les chrétiens l'étaient 24 heures par jour. Ça fait mal, hein? Sans doute serais-je chrétien si les chrétiens l'étaient 24 heures par jour. Le christianisme, en lui, la personne de Jésus-Christ, ça lui faisait envie, mais pas les chrétiens. Pas l'incohérence qu'il trouvait chez les chrétiens. Mais c'est vrai qu'on peut vite répondre en disant, voilà, c'est peut-être une excuse pour lui, ou alors il n'était pas confronté à des vrais chrétiens, et néanmoins, s'il en était confronté certainement à des vrais, ça nous fait réfléchir à nous-mêmes. Quelle cohérence avons-nous, nous-mêmes, en fait, entre notre foi en Jésus-Christ et notre quotidien? Quelle cohérence on a entre notre foi en Jésus-Christ et nos relations avec chaque personne? Et ce qu'il avait notamment marqué, c'était le racisme, ce système, alors c'était en Inde, de caste, mais aussi de la part des chrétiens britanniques, colons, de maltraiter, de voir comme inférieurs les Indiens et les Africains du Sud. Et nous sommes actuellement dans l'évangile de Luc, où on est en train de voir le serment sur la montagne dans cet évangile, et où Jésus nous rappelle ou nous montre quelles sont les marques de son disciple. Il a appelé 12 disciples suite à l'opposition dont il est victime, le rejet. Il est en train de se former un nouveau peuple avec ses disciples, justement. Et la semaine dernière, on avait vu cet appel à aimer nos ennemis, qui pourrait être vraiment ce résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais Jésus ici va continuer à partir du verset 37, donc dans Luc 6, où cet amour n'est pas seulement pour les ennemis, mais il va étendre aussi cet aspect de la relation envers tous les hommes, certainement au sein de la communauté croyante, mais pas que. Et je vous invite alors à lire ce texte où nous allons finir le sermon sur la montagne dans cet évangile. Donc Luc 6, je lis à partir du verset 37. Ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Il leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil », toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras à ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produise du mauvais fruit, ni de mauvais arbre qui produise du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle. Aussitôt, elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. Dans ce récit où Jésus continue en fait une des marques de son disciple et l'aspect de la relation, Jésus nous invite ici comme Marc à être dans des relations généreuses, être généreux dans nos relations. Et il le fait ici par ces quatre affirmations, deux qui sont négatives et deux qui sont positives. Ne jugez pas et ne condamnez pas les affirmations négatives et au contraire absolvez ou selon la traduction pardonnez ou déliez et également donnez. Et on peut remarquer que ces quatre affirmations sont suivies par un futur, n'est-ce pas ? Si vous ne jugez pas, vous ne serez point jugé. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamné. Encore au futur. Absolvez et vous serez absous. Ainsi que donnez et on vous donnera à chaque fois du futur. Et la question qu'on peut se poser et qu'on doit se poser, qui va agir ainsi envers nous dans le futur ? En fonction de nos relations, dans la manière dont on traite nos relations, les personnes que l'on croise, qui va agir comme ça, ainsi, dans le futur envers nous ? Il n'y a qu'une réponse, n'est-ce pas ? C'est Dieu. C'est Dieu qui va agir ainsi. Le jugement que Dieu exercera sur chacun d'entre nous. Et ici, donc, Jésus est en train d'affirmer que l'attitude que Dieu aura envers nous est conditionnée par l'attitude que nous avons envers les autres. Est-ce que tu veux que Dieu te pardonne ? Pardonne. Est-ce que tu veux que Dieu te juge ? Que tu veux que Dieu te condamne ? Alors condamne. Et si tu ne veux pas, pardonne et donne. Alors, il est clair que ici, Jésus ne fait pas de notre attitude un mérite, simplement par rapport à la cohérence des Écritures, par rapport à la cohérence même des affirmations de Jésus dans le livre de Luc. Je vous rappelle juste la finale où Jésus, après sa résurrection, apparaît à ses disciples et leur rappelle, verset 46 du dernier chapitre, il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait ». Qu'il ressusciterait d'entre les morts et le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ce n'est pas que vous allez annoncer que vous serez pardonné seulement si vous pardonnez, que vous ne serez pas jugé seulement si vous ne jugez pas, mais c'est que vous allez annoncer maintenant la repentance, que le pardon est accessible en faisant ce demi-tour, en saisissant le pardon par la foi. Donc Jésus n'est pas en train ici de faire de notre attitude envers les autres un mérite pour être pardonné, pour accéder au salut, aux bonnes grâces de Dieu. Mais néanmoins, Jésus affirme quand même clairement que Dieu va utiliser notre mesure. Et c'est cette image ici du monde agricole, n'est-ce pas ? On va mettre dans votre sein une bonne mesure. Effectivement, quand on avait battu le froment ou autre, on prenait son vêtement et on mettait une mesure dans le vêtement. Et on secouait, on tassait pour enlever le vide, pour pouvoir justement en remettre. Donc une mesure qui va être pleine, entière, complète. Et même Jésus nous dit qu'il va déborder. Dieu veut être généreux avec nous. Mais si on est généreux dans le pardon, il va être généreux dans le pardon. Mais si on est généreux dans la condamnation, il va être généreux dans la condamnation. Et là, on doit se poser cette question par rapport à ces éléments. Alors, ça veut dire quoi exactement ne pas juger ? Un texte qu'on connaît bien. Et en fait, même les non-croyants connaissent bien ce texte, n'est-ce pas ? Ne juge pas. Il ne faut pas juger. Et ça veut dire quoi exactement qu'il ne faut pas jugé. Et encore une fois, il nous faut prendre un peu la cohérence et même les autres paroles donc, de Jésus dans cet évangile. Jésus lui-même qui dira plus tard, toujours dans l'évangile de Luc, « Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste ?» Donc il dira, et le verbe « discerner » ici a été est le même verbe à la base que celui qui est rendu par « juger » dans notre texte. Il dirait « Vous devez juger ». Alors ça veut dire quoi? À un moment donné, il dit « Ne jugez pas ». Ici, il nous dit « Mais pourquoi vous ne jugez pas? Vous devez juger ». Et on a plusieurs autres textes dans l'Écriture qui nous appellent à juger. Paul, par exemple, reprendra l'église de Corinthe parce qu'elle ne juge pas. Elle devrait juger en son sein ceux qui vivent d'une moralité, une éthique qui est selon Dieu, de ceux qui vivent une moralité, une éthique qui n'est pas selon Dieu. Donc, Dieu nous invite à juger, dans le sens de discerner, d'évaluer ce qui est bien et ce qui est mal. Et même de le faire non en fonction des apparences, nous dira Jésus en Jean 7, 24. On doit juger la vérité. D'ailleurs, toujours Paul en Corinthe reprendra l'Église qui ne juge pas, qui ne protège pas la vérité. Alors ça veut dire quoi ici? Ne jugez pas. S'il nous faut différencier entre le bien et le mal, il faut juger entre le bien et le mal. Selon ce qui est vrai ou faux, ce qui est moralement éthique, moralement contraire à Dieu. S'il y a toutes ces invitations dans ces autres passages, la part de Dieu, c'est dire quoi ici? Ne jugez pas. Pourtant, c'est vrai parfois. La personne n'est pas chrétienne, l'autre est chrétien. C'est dans le sens, ne critiquez pas. Mot que discerner là. Ouais. À la base, c'est le même mot ouais, qui a été traduit différemment ici. C'est bon? Hop. Ne critiquez pas les personnes. Ne descendez pas votre prochain. Ne le catégorisez pas comme s'il était impossible pour lui de changer, d'être transformé. Libérez votre prochain de la critique. Libérez votre prochain du mal qu'il vous a fait et du reproche constant comme s'il était interdit de changer. Au contraire, soyez généreux. Et quelque part, il en va ici de notre cohérence. Est-ce qu'on croit en l'évangile de la grâce pour tous les hommes? Est-ce qu'on croit que la grâce est accessible à tous les hommes? Est-ce qu'on croit en l'évangile du pardon? Est-ce qu'on croit en l'évangile de la transformation? Est-ce qu'on croit en l'évangile de Jésus-Christ? Mais pas que pour moi, mais pour ceux qui nous entourent aussi. Pour notre prochain qui nous a fait du mal. Pour notre prochain qui a dit des paroles dures, est-ce qu'on est prêt à le libérer, à ne pas le lier, comme il dit ici, à pouvoir l'absoudre? Est-ce qu'on est capable, effectivement, comme Ouli l'a dit, je t'ai juste repris sur ton exemple, mais ne pas le catégoriser. Lui, c'est un homme méchant. Et voilà, tu es méchant pour toujours. Et je vais toujours te regarder comme méchant, mauvais, etc. Je vous donne un exemple. Dans une église où on a été, quelqu'un est venu me voir pour dire « Cet homme-là, il y a quelques années, a agressé ma sœur sexuellement. » On fait quoi? Est-ce qu'on le refuse dans l'église? Est-ce qu'on le refuse comme frère? Ou est-ce qu'on l'accepte? Et si on l'accepte, à quelles conditions? Parfois, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Mais l'évangile de la grâce nous rappelle que Dieu pardonne, que Dieu nous transforme. Honnêtement, si Dieu ne nous transformait pas, qui d'entre nous serait là ce matin? Et nous, on met vite de catégorie quelque chose qui est grave, péché sexuel, de quelque chose, oh, il a simplement menti. Mais qu'est-ce qui est le plus grave parfois dans les relations humaines? En fait, les deux, n'est-ce pas? Mais Dieu pardonne l'un et l'autre. Dieu transforme l'un et l'autre. Mais la question, c'était alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit avec cet homme-là? La solution, c'était, on ne va jamais le laisser seul avec des enfants, avec des jeunes filles. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas le mettre en situation où lui-même pourrait retomber, n'est-ce pas? Il reste sur un domaine de faiblesse. On ne va pas le mettre en situation de tentation et de danger, et on ne va pas mettre des jeunes filles et des enfants en situation de danger. Mais quelque part, parce qu'on croit à l'évangile du pardon, on croit que Dieu peut transformer, et effectivement, il y avait eu transformation, et ça s'était vu quand même au travers de quelques années, alors on doit accepter, accompagner, et ne pas catégoriser comme définitivement perdu. Ne jugez pas. Ne condamnez pas. Et au contraire, absolvez et donnez. Soyez cohérents. À moins que notre attitude montre que nous ne sommes pas disciples. À moins que notre attitude montre que nous n'avons pas reçu l'évangile de la grâce. À moins que notre attitude montre que nous ne sommes pas ses disciples, que nous avons entendu la grâce, mais nous ne l'avons pas vraiment acceptée dans notre quotidien. Et ça, ça se voit dans notre pratique. Et Jésus va nous en parler dans cette deuxième partie, dans cette parabole. Être généreux à la suite et selon le maître, avec une parabole avec un ensemble de relations à deux. Il va nous parler effectivement de deux aveugles, de deux rapports au maître, de deux malvoyants, de deux arbres, et de deux maisons ou de deux fondements, pour nous faire réfléchir par rapport à ce thème-là. D'abord, deux aveugles. Jésus propose ici une situation qui est assez ridicule, n'est-ce pas? Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Et la réponse, c'est quoi? Non. C'est clair et net que c'est non. Ça semble vraiment ridicule comme proposition. On sait très bien que si un aveugle conduit un aveugle, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ils vont se planter, ça va faire mal assez rapidement, n'est-ce pas? Tôt ou tard, ils vont tomber. La question est pour nous là, en tant que disciples, qui sommes marqués par la grâce, comment voulons-nous conduire quelqu'un vers la grâce, vers l'évangile de Jésus-Christ, si nous ne vivons pas en pratique dans notre quotidien la grâce et l'évangile de Jésus-Christ? Si nous ne faisons que l'accepter en théorie, mais nous refusons de l'offrir à ceux qui nous ont fait du mal, pas à ceux qui nous ont fait, à ceux qu'on aime, c'est facile franchement d'offrir la grâce à son conjoint, à ses enfants, pas de problème, mais à ceux qui nous ont fait du mal, à ceux avec qui c'est difficile, avec mon patron, peut-être avec un parent qui n'a pas pris soin de moi, d'offrir cette grâce. Comment je peux témoigner, je peux parler de cette grâce sans la vivre? Je suis un aveugle. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais conduire un autre aveugle droit dans le mur. Et je me rappelle à cette parole de Gandhi. Je serais devenu chrétien si les chrétiens vivaient leur foi 24 heures sur 24, ou s'il était 24 heures sur 24. Impossible. Et en tant que disciples, on a besoin de nous laisser éclairer sur notre état ici par Jésus-Christ. Le laisser nous changer dans notre quotidien, dans toutes nos relations, afin d'être ces poteaux indicateurs vers cette grâce. Deux rapports au maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli, qui est arrivé au bout de son apprentissage, sera comme son maître. Qu'est-ce qu'il existe un peu comme désir secret chez tout disciple, à votre avis? Mais bon, c'est pas très compliqué ça. Je veux des sourires, je veux des personnes qui font comme ça. C'est qu'on a envie de dépasser le maître, n'est-ce pas? Un disciple a envie de montrer au maître qu'il est capable et même d'aller plus loin. Et quelque part, c'est une bonne chose. La science, la connaissance avance parce que des disciples sont allés plus loin que leur maître. Ont osé remettre en question leur théorie, en nous trouver d'autres. Et ont montré les défauts pour montrer d'autres bonnes choses. Si actuellement vous allez à l'hôpital pour vous faire soigner, c'est parce que des disciples ont remis en question les théories médicales de leur maître. Et heureusement, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on a des soins comme on les a aujourd'hui qui sont quand même meilleurs que ce qu'on avait il y a 100 ans. Mais Jésus nous dit ici, pour lui, le disciple ne pourra jamais le dépasser. Alors attention à ne pas chercher à prendre la place du maître dans nos relations. Attention à ne pas vouloir prendre la place et dire aux personnes « fais comme moi, suis-moi moi », alors que nous ne sommes que là pour montrer le maître, l'orienter vers lui. Et en même temps, Jésus est généreux ici. Même s'il nous dit qu'on ne pourra pas le dépasser, il ne limite pas son disciple. Il dit « le disciple qui est arrivé au bout de son apprentissage, qui est arrivé, qui est accompli, sera comme lui ». Et ça veut dire « agira comme lui ». Est-ce que nous agissons comme le maître dans nos relations avec les autres ? Veillons à ne pas aller au-delà, à ne pas prendre sa place, à ne pas mettre d'autres instructions. Et parfois, on sait très bien que pour protéger l'évangile, que pour protéger la grâce, en fait, on va mettre tout un ensemble de règles autour, n'est-ce pas ? Et en fait, on va se prendre pour le Saint-Esprit parfois. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais Jésus dit non, c'est le maître qu'il faut suivre, c'est la grâce. Et pas nous avec toutes les règles qu'on a envie de mettre en plus autour. Faisons confiance aussi au Saint-Esprit. Et l'enjeu ici est encore une fois énorme, avec des résultats qui peuvent être soit merveilleux, une personne qui s'attache à la grâce, qui connaît la grâce, ou une personne qui ne va jamais s'attacher à la grâce et aller droit à la catastrophe. Encore une fois, à cause de cela, soyons attachés au Maître, à son enseignement. Deux malvoyants. Encore une fois, Jésus utilise le comique de situation, n'est-ce pas ? Il faut juste se représenter la scène. De la paille, pourquoi pas ? Pour vous qui avez été peut-être à la ferme, qui avez des amis, où on jouait dans la paille, là on est dans l'église, à Meignier. Voilà, après le culte, on était dans la paille. Et donc oui, on avait des morceaux de paille dans les yeux, un peu partout. Mais là, il dit, si tu as une poutre, donc, le gros machin comme ça là. Donc vous voyez, Jésus, il force le trait, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici ? Est-ce qu'il interdit d'aider un frère ? Et parfois c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas ? Qui suis-je moi ? Je suis pas parfait, donc je ne peux pas aider. Mais est-ce que c'est ce que Jésus est en train de dire ? Non. Il dit quoi ? Il dit « aide ton frère, mais pour bien l'aider, qu'est-ce que tu dois faire d'abord ?» D'abord, ôte la poutre. Donc il n'est pas contre l'aide, au contraire, cette aide, ce soutien est nécessaire. Mais il veut nous éviter, comme il le dit ici, d'être hypocrite, de faire croire que nous sommes arrivés, que nous sommes parfaits. Neil Anderson a popularisé... quelque part, les manières dont Dieu nous voit dans son livre « Une nouvelle identité pour une nouvelle vie ». Je ne sais pas si vous l'avez lu, il est très intéressant. Il y a tout un ensemble, une liste qui nous donne et qui nous encourage à avoir effectivement des « je suis ». Je suis un enfant de Dieu, je suis saint, je suis pardonné, je suis, etc., etc., etc. Et c'est une bonne liste qui est intéressante et qui soulève effectivement, qui nous rappelle tout ce que la Bible dit sur ce que nous sommes grâce à Jésus-Christ, grâce à son intervention en notre faveur. Mais Jésus dit ici autre chose, et il nous choque, n'est-ce pas ? Hypocrite. Ne sois pas hypocrite. Et il y a d'autres auteurs, les apôtres nous choquent un petit peu parfois en se montrant un petit peu rudes. Jacques nous dit, aux disciples, il dit, adultère. C'est pas forcément un compliment, n'est-ce pas ? Adultère. Que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Si vous aimez le monde, Jacques dit aux disciples, adultère. Et Paul, en Galates, dira ceci, dans son lien, dans sa discussion avec Pierre, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je ne sais pas si je l'ai mis, non, je ne l'ai pas mis, je me constitue moi-même transgresseur. Et c'est le même terme que pécheur. C'était juste traduit différemment. Je me constitue moi-même pécheur. Et là, il le dit notamment à Pierre, qui revit la séparation entre juifs et non-juifs. Et Paul lui dit, pécheur. Donc oui, je suis saint, je suis pardonné, je suis une nouvelle créature, je suis, mais aussi hypocrite, adultère, pécheur. Alors, nous sommes tous là, mais quelque part, les apôtres, avec ces paroles, parfois rude. Et Jésus-Christ, ici, nous dit, n'oublions pas que nous ne sommes pas arrivés. n'oublions pas que nous sommes encore en chantier. Ce n'est pas fini. Et donc, ne croyons pas que nous sommes parfaits. Mais il y a encore du travail à faire. Soyons réalistes. Regardons la poutre qui est dans notre œil pour ne pas nous croire parfaits. Voyons, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Qu'est-ce qui doit être encore changé dans ma vie ? Qu'est-ce qui doit être encore transformé ? Essayez d'être conscient de cela, de voir cela qui me rendra vraiment capable d'aider mon frère, de pouvoir l'aider de manière, encore une fois, généreuse, sans le prendre de haut, en lui disant « Moi, je sais, ne fais pas ça », sans le ridiculiser, mais en pouvant se mettre simplement à son niveau. Je sais que ce n'est pas évident. Mais néanmoins, ça ne reste pas juste. Et veille sur son attitude. Veille sur ta manière de parler à ton conjoint, par exemple. Parce que quand je t'entends parler, mais j'ai mal pour ton mari, parce que tu es franchement dur avec. Et notamment quand tu le reprends en public. Essayez d'être plus doux, de faire envie à nos jeunes que le mariage est une bonne chose et c'est possible, etc., etc. Besoin d'humilité, notre manière de nous voir, afin d'agir avec humilité pour tendre la main. Deux arbres. Jésus utilise encore ici une image populaire. On reconnaît l'arbre à son fruit. Et il va plus loin en l'appliquant à son disciple, n'est-ce pas ? Les fruits visibles proviennent de ton cœur, il nous dit. Ce qui se voit, ta manière de parler, ta manière de te conduire, encore une fois, avec toutes les relations, provient de ce qu'il y a dans ton cœur. Et le cœur, ici, ce n'est pas simplement le centre des émotions. Je le sens pas. J'ai envie, je n'ai pas envie. Quand la Bible nous parle que Jésus est pris de compassion, l'image, ce n'est pas qu'il est pris dans son cœur, c'est qu'il est pris dans ses intestins, il est pris dans ses tripes. Les émotions sont à ce niveau-là, au niveau du langage biblique. Le cœur, au niveau biblique, ce n'est pas les émotions comme nous aujourd'hui. Le cœur, c'est le centre de la personne. C'est l'intelligence, c'est la volonté, c'est la personnalité. Donc, quand Jésus nous dit, ou quand Dieu nous dit d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, c'est avec toute notre intelligence, en braquant notre volonté, en nous disciplinant quelque part pour l'aimer. Et ici, il nous dit, c'est ce qui sort de notre cœur, ce que nous on dirait, c'est ce qui sort de notre tête. N'est-ce pas ? Ce qui est visible, les fruits visibles de notre vie, notre attitude, notre manière de parler, etc., sort de notre intelligence renouvelée par Dieu ou pas. Question, qu'est-ce qui alimente notre cœur ? Qu'est-ce qui alimente notre cœur ? Quelle est la vérité ? Et je reprends ce que Daniel nous a dit sur Billy Graham. Lis la Bible tous les jours, non pas pour le plaisir de la lire, c'est bien d'avoir plaisir à la lire, hein. Non, pas pour la connaître par cœur, mais pour que sa vérité soit ta vérité. Et de pouvoir marcher ainsi main dans la main avec Dieu. Et pourquoi c'est important ? Vous vous souvenez ce que Paul nous dit dans le combat contre Satan ? Il nous dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, n'est-ce pas ? En fait, le véritable ennemi, ce n'est pas... Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas mon patron. Mais c'est Satan qui est derrière, il cherche à pourrir les relations. À cause de cela, il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et qu'est-ce qu'il nous faut faire ? De prendre le bouclier de la foi. Pourquoi prendre le bouclier de la foi ? Pour qu'il s'enfuit. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le bouclier de la foi, en fait ? On éteint les flèches enflammées, c'est-à-dire les mensonges de Satan. C'est une question de mensonge. Et pour cela, on a besoin de connaître la vérité. La foi, ce n'est pas seulement dire que j'ai la foi, c'est accepter la parole de Dieu, la vérité, pour lutter contre ce qui est mal. Et c'est pour ça que Jésus a dit lui-même, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est que la vérité qu'on saisit par la foi. Et si vous lisez plus tard ce que Paul dit dans Timothée à propos du serviteur de Dieu... Il lui dit que le serviteur, c'est à partir du verset 24-26, je ne vais pas lire, mais que le serviteur de Dieu doit instruire, doit enseigner l'autre personne, doit enseigner le contradicteur, mais aussi son frère. Pourquoi ? Pour qu'il parvienne à la connaissance, Pourquoi connaître, avoir cette connaissance? Pourquoi avoir la vérité? C'est qu'afin qu'il puisse discerner les mensonges du diable, les pièges du diable, nous dit Paul. Donc ce n'est pas simplement de prier « Satan, va-t'en !» C'est « Connais ce que dit Dieu sur toi. » Connais ce que dit Dieu sur telle ou telle situation, comment il veut que tu vives, afin que tu puisses rejeter les pièges de Satan qu'il met entre toi et ta femme, entre toi et tes enfants, entre toi et ton patron, afin de connaître pour te libérer et vivre la liberté que Dieu veut t'offrir. Question ou application. Face à des années de difficultés qu'on a pu connaître, des personnes aiment bien simplement nous dire « Dieu ne veut pas que vous souffriez. Dieu est contre cela, on va prier et ça va aller. T'en fais pas, ça va aller. » Est-ce que ça aide ça? Est-ce que c'est ça la vérité? Ça va aller? Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Ça va aller? Je prends juste l'exemple de Job. Est-ce que il aurait fallu qu'on aille lui dire à Job, « Job, ça va aller. T'en fais pas, ça va aller. Dieu ne veut pas ça. » Alors que la vérité, c'était quoi? C'est que Dieu a montré Job à Satan et que Dieu a voulu, n'est-ce pas? C'était ça la vérité. Est-ce que la vérité, c'était Dieu ne veut pas le mal? Dieu ne veut pas que son enfant connaisse la douleur et l'épreuve? C'était ça la vérité dans Job? Non, n'est-ce pas? C'est que Dieu a donné. C'est que il suffit de prier et Satan va s'éloigner? C'était ça la vérité de Job? Non, ce n'était pas ça la vérité de Job, n'est-ce pas? C'est que Dieu a dit à Satan, « D'accord, tu peux, mais pas plus loin que ça. » Pas plus loin que ça. Tu as le droit de toucher à toutes ses affaires et même à sa santé, mais pas plus loin que ça. Quand on va visiter un ami, quand on va visiter un chrétien qui va mal, qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on va juste lui dire, « Je vais prier pour toi et tout va aller mieux parce que Dieu ne veut pas que tu souffres. » Parce que Dieu est contre cela ou contre cela. Malheureusement, et l'exemple de Job nous le montre, l'exemple de Paul nous le montre aussi. 3 fois j'ai prié afin que cette épreuve, cette écharpe s'en aille, et 3 fois Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. 3 fois Dieu a dit, non. Donc si parfois on va voir notre frère et notre sœur dans une visite et simplement dire, je vais prier parce que Dieu ne veut pas que tu aies une épreuve, Dieu ne veut pas que tu souffres, je crains que parfois on puisse s'opposer à Dieu. Parce qu'on ne connaît pas la vérité. Parce qu'on n'est pas attaché à la vérité. Mais on est attaché à nos désirs. Et Jésus dit, son disciple est marqué par la vérité. Cette vérité par laquelle il alimente son cœur pour la vivre dans ses relations et dans ses conseils et dans sa manière de prier. Et Jésus va encore insister dessus. Avec ces 2 maisons ou ces 2 fondements. Et il nous décrit ici les caractéristiques de son disciple. Regardez verset 47. Voilà son disciple. C'est celui qui vient à moi. C'est celui qui est marqué par cette relation quotidienne, qui s'attache à son Seigneur, qui volontairement prend du temps dans ses priorités pour aller à la rencontre. Et quand il va le rencontrer, ce n'est pas seulement pour lui dire plein de trucs, mais c'est pour l'écouter, il entend mes paroles. Et ce n'est pas juste pour faire « ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre ». Mais c'est celui qui entend, qui les reçoit, qui les digère, qui prend le temps de réfléchir qu'est-ce que ça veut dire dans sa vie, afin que, 3e étape, il les met en pratique. Il les met en pratique. Il va réfléchir qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans ma relation avec ma femme. Ça veut dire quoi aujourd'hui face à mon épreuve, dans ma maladie, dans ma vieillesse, dans ma jeunesse, et dans tout? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour moi? Et c'est dans ce cadre-là que Jésus utilise cette image des 2 maisons, des 2 fondements pour qualifier son disciple. Et contrairement à Matthieu, où dans le Sermon sur la montagne, Matthieu met l'accent sur le lieu où l'homme construit sa maison, il construit sa maison sur le roc, où il construit sa maison sur le sable. Ici, Luc met plutôt l'accent sur la manière de construire. Regardez, verset 48. Donc, il a bâti une maison, mais comment il a fait? Il a creusé profondément et posé le fondement. Alors que verset 49, celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sur la terre, sans fondement. C'est la manière de faire. Oui, le lieu est important, mais la manière. Est-ce qu'on a pris le temps de creuser? Est-ce qu'on a accepté la peine de transpirer? Parce que ça me demande un effort. Ça me demande une discipline. Ça me demande de la volonté. Une question de peine, de travail et de volonté. Et le résultat, encore une fois, va être payant. À celui qui s'est donné les moyens, qui a peiné, qui a transpiré, sa maison va résister. Et celui qui ne veut pas peiner, qui veut tout prendre facilement, sa maison est détruite. Je vous donne un exemple ou une illustration qui vaut ce qu'elle vaut. Elle n'est pas magnifique, c'est la seule qui m'est venue à la tête, désolé. Mathéo, actuellement, il veut passer son permis pour le vélo moteur. Donc, il passe le code de la route. D'accord ? Et il prend le temps. On le voit souvent sur son téléphone en train de réviser, en train de faire des examens. Pourquoi ? Parce qu'il veut réussir. Il est attaché à bien conduire, à réussir pour pouvoir avoir la liberté du vélo moteur. Et il y a d'autres personnes qui roulent sans permis, qui prennent des raccourcis et qui deviennent des dangers publics, n'est-ce pas ? Parce que ça leur prend la tête, pas le temps pour ça. Il y a celui qui prend le temps de construire pour veiller, pour respecter sa sécurité et la sécurité des autres. Et il y a ceux qui n'en ont rien à faire. Mais il y a encore une troisième catégorie, c'est moi. Parfois, Mathéo, il vient me voir, il me dit « Papa, c'est quoi ça ?» Et je dis « Oh là là, ça fait longtemps que je n'ai plus vu ce panneau, je ne sais pas. » Il y a ceux qui ne révisent pas, ceux qui ont fait une fois pour toutes et c'est fini, et qui pourraient presque être des dangers parce qu'on fonctionne sur nos habitudes. Et on devient des dangers aussi pour les autres. Jésus nous dit ici, le disciple, c'est celui qui entend, qui vient, qui entend, qui met en pratique, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Pas le jour où il s'est converti, il y a 20 ans, il nous a fait quelques larmes. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et encore aujourd'hui, c'est sa marque. Voilà le disciple. Voilà les marques du disciple. Et en arrivant à la fin de notre sermon, voilà les trois grandes marques. Il vit selon les valeurs éternelles de Dieu pour la gloire de Dieu. Parfois, ça veut dire renoncer à soi-même, renoncer à des privilèges, renoncer à sa gloire, mais pour le bien et la gloire de Dieu et au final notre gloire éternelle. Il aime ses ennemis. Il recherche le bien de tous et il est généreux dans ses relations, cherchant à relever et à élever plutôt que de tenir les personnes dans l'abaissement. Et cela, ils ne peuvent le vivre que dans la proximité avec Jésus-Christ, à l'écoute de sa parole, recevant sa grâce et vivant la grâce à son tour. J'aimerais amener une réflexion et je mets les pieds dans le plat ici. Il y a quelques années, notre Église a connu une crise, n'est-ce pas ? Et certaines personnes pourraient être encore marquées par cette crise, et c'est normal. Mais par rapport à ce que Jésus nous dit ici, ne jugez pas, ne condamnez pas, absolvez, donnez. Où en sommes-nous par rapport à ça ? Qu'est-ce qui nous marque en tant que disciples dans cette situation-là, par rapport à notre passé ? Qui parfois est encore du présent. Et si ce n'est pas la situation de la vie de l'Église, mais c'est d'autres situations, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que nous faisons ? Est-ce que nous sommes marqués par un entretien de l'amertume ? Est-ce que nous sommes marqués par un refus de pardonner ? Ou alors nous sommes marqués par la vie du disciple, par la grâce ? Ça ne veut pas dire que les relations repartent comme si de rien n'était. Ça ne veut jamais dire ça. Mais est-ce qu'on libère les personnes ? Et est-ce qu'on se libère soi-même ? Est-ce qu'on est prêt à tendre la main ? Ou on est toujours celui qui attend que l'autre fasse le premier pas ? Et si on a libéré, est-ce qu'on ose aller faire ce pas en disant « voilà, je regrette ». Ça m'est arrivé Pendant quelques années, pendant 2 ans, je n'ai pas eu de relation avec une de mes sœurs, suite à une situation de mensonge. Et un jour, je lui ai téléphoné, et on a pleuré les deux au téléphone, dire mais j'en ai marre, on n'a plus de relation comme c'était avant. Et ce n'est pas normal, en tant que frère et sœur, n'est-ce pas, de ne plus avoir cette relation-là. Et il a fallu qu'on prenne le temps de discuter et qu'on mette les choses à plat. Parce que d'être de façon sans en parler, c'était réglé. Mais on avait besoin d'en parler pour dire, il y a quelque chose qui ne va plus là entre nous deux. Et on a besoin de revenir là-dessus pour recommencer une relation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va être de ceux qui prennent le téléphone, qui tendent la main, qui vivent la grâce? Ou pas? La marque du disciple, c'est les valeurs du royaume, c'est l'amour pour l'ennemi et c'est des relations généreuses. Je vous invite à prier.